RCC, l'ITV Calvez, animé par François Colombani.
François, salut!
Salut, comment vas-tu?
Bien, bien, bien.
Bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un amoureux de Calvi, un quasi cittadellaccio, Orlando Furioso. Alors, tout d'abord, merci d'être venu. Mes meilleurs voeux, la santé surtout. Je vais prendre un petit peu le contre-pied de mes émissions. D'habitude, on commence toujours par s'intéresser sur l'histoire de l'invité. Là, j'ai quand même quelqu'un qui s'investit énormément auprès des Calvets au niveau associatif, au niveau local, sur la culture. On a une période compliquée. Est-ce que tu peux nous donner ton petit ressenti de cette période que nous vivons?
D'emblée, comme ça, vabbè. Allora, buongiorno a tutti, salute, buongiorno. Comme vous savez, moi je parle une langue que personne ne parle, c'est l'orlandien. C'est-à-dire, c'est un mix de français, corse, italien, comme sorte et sorte. D'abord, je voulais avoir une pensée pour Dédé Simoni, qui vient de disparaître. Je suis passé avant de monter ici, et j'ai tenu à le saluer. La question que tu me poses, bonne année d'abord à tout le monde. Personne ne voulait cette année avoir les auguri de bonne année. Ils disaient non, oh là là, oh là là, oh là là. Et moi, j'ai dit, mon dicton cette année, c'est « Speranza è mia patria » en italien. L'espoir, c'est ma patrie. C'est-à-dire que si on perd même celle-là, on est foutu, dites clairement. La situation, le ressenti, bon, évidemment, les personnes qui sont là, qui nous écoutent, chacun il a ses problèmes, chacun il a son ressenti, évidemment. Disons la vérité, nous sommes des privilégiés, d'une certaine façon, en Corse. Nous sommes des privilégiés parce que, par exemple, moi, j'avais prévu, une fois terminé mon travail dans les écoles, à la fin de l'année, de retourner chez moi en Toscane, en Italie, là où j'habite, et de passer les fins d'année à Turin, dans ma famille. Mais en Italie, c'est un désastre, pire qu'en Corse, pire qu'en France. On joue avec les couleurs, ça semble le jeu d'enfant rouge, vert, orange, blanc... Et donc c'était beaucoup pire que rester ici. Donc on est des privilégiés. On est des privilégiés de tous les points de vue. Mais dans mon secteur, et je parle pas de moi personnellement parce que il y a aucun intérêt jusqu'à là. Mais dans mon secteur, c'est celle de la culture. Voilà, tout le monde il le sait que nous sommes fermés, que ça fait un an, on a eu la chance après le premier confinement de réussir à faire quelque chose l'été. Mais que toute notre activité, qu'on avait évidemment reportée vers l'automne et vers l'hiver, ce n'est pas là da tutta. Toutes les activités, il n'y a plus rien qui tient. Et donc nous sommes là. Bon, il faut dire les choses comme elles sont. D'abord, il faut dire qu'on était bien accompagnés, hein. Moi, d'habitude, moi je dis que les personnes qui font de la culture, ils doivent pas être consensuels avec le pouvoir. Donc, je serai jamais consensuel. Mais je dois admettre que la CTC, elle a joué son jeu. Je veux dire, quand nous, en plein confinement, on a reçu comme troupe de théâtre, ou comme sveglio, la lettre de financement, comme d'habitude, chaque année, ça nous a fait du bien, hein. Mmh. Franchement, ça nous a fait du bien.
Donc, et financièrement, donc, il y a eu un accompagnement là-dessus.
Ah ben oui. Ça, il faut le dire. Attendez, il faut dire que quand même, on nous a pas oublié de ce point de vue. Ça, c'est pas ça le problème. Et d'ailleurs, même les intermittents, ils ont une suite. Évidemment, c'est pas les meilleures demandes. On préfère travailler, nous. Mmh. Le problème, ce n'est pas économique, si vous voulez, à certains moments. C'est un problème de travail. Mon boulot, ma profession, c'est de faire de la culture, du théâtre, des spectacles, des animations, des ateliers, quelque chose. C'est mon boulot. Si vous m'enlevez ça, déjà, adieu plus de 60 ans. Déjà, mi sento, oh, j'ai pas beaucoup de temps. Oh. Déjà, adieu, ouais, dopo mi levate au travail. Et ça fait dur, évidemment, hein, ça fait dur. Mais, comme je dis, speranza è mia patria, donc on relance.
Alors, est-ce que pendant cette période d'arrêt quasi obligatoire, puisqu'il y a eu aussi les bars, les restaurants qui étaient considérés comme non essentiels, à un moment même les librairies, Est-ce qu'on a le courage, l'envie de produire, d'écrire, de lancer des projets?
Alors, de lancer dans notre tête, parce que on peut pas les lancer dans la réalité des choses, mais alors, disons les choses comme elles sont, hein. Moi, je pense que cette pandémie, il faut pas la traiter comme j'ai eu un caillou dans les chaussures. C'est passé un truc de banal. Non, c'est pas banal. Cette pandémie, ça a été quelque chose qui restera dans l'histoire. Donc, nous sommes en train de vivre la chronaca, mais nous sommes en train de vivre l'histoire. Donc, chaque moment de notre vie, elle a eu des moments particuliers dans lesquels on s'est pris en main. Là, je pense que si on se prend pas en main, on rate quelque chose, on va rater quelque chose. Si on fait semblant que rien s'est passé, si on fait semblant que on accroche le fil qui s'était cassé avec le mois de je sais pas d'octobre 2019, à quand on pourra reprendre comme rien s'était, ça va être quoi ça? Ça veut dire qu'on a vécu toute cette période pour rien. Et surtout, il faut pas oublier qu'avant de la pandémie, on vivait une certaine situation. Et là, on avait des problèmes. Si ces problèmes-là, on n'essaie pas de les résoudre maintenant, et je dis que dans la culture, des problèmes, on a eu énormément. Par exemple, moi, j'ai fait une initiative qui s'appelle 1535. Ça veut dire quoi? Le théâtre m'appartient. C'est-à-dire, on s'est aperçu, on a fait un questionnaire dans les écoles, on s'est aperçu que le théâtre, ça fait pas partie de la vie des jeunes. Alors, vi dico mica il risultato du questionnaire, parce que ça fait peur, hein. Fa già paura. Donc, on a commencé à dire, pourquoi vous venez pas au théâtre? Pourquoi, et donc, on a eu des grosses discussions, qui nous ont porté même à faire des productions, hein. Même à avoir des idées nouvelles, parce que moi, j'écoute beaucoup les gens qui me disent les choses, et les jeunes d'abord. Et là, j'ai eu un jeune, il y a 2 ans, qui m'a dit, moi, venir au théâtre, et puis je peux voir sur Internet ce que vous faites. Alors moi, je continue à dire, non, Coco, c'est pas la même chose. Le théâtre, c'est une chose, et Internet, c'est un autre, le virtuel, le direct. Et au début, mica, même les autres. Eh ben, au final, au jour d'aujourd'hui, on doit calculer qu'il avait raison, lui.
Oui.
Il avait raison, lui. On a inondé le web de tout ce que c'était possible, et même le pire, je dis les choses comme elles sont, et même le pire de qu'est-ce que c'était possible. Donc, et ce que, si vous me permettez, comme ça, je termine, moi, la chose qui ça m'a fait plus mal, évidemment, hein, c'est ce mot non essentiel. D'abord, qui a le droit de donner ce titre non essentiel, là alors? C'est quoi essentiel? C'est quoi essentiel? Mourir, c'est essentiel? Ben non, mais on meurt.
C'était travailler.
Voilà. Manger, c'est essentiel. Ah ben, parler de ça avec quelqu'un qui est anorexique, il aura une autre idée. Évidemment, moi, avec ma pince, je mange bien, ça me plaît, manger. Mais la culture, c'est quoi? Alors, on continue à dire.
La nourriture du cerveau.
La nourriture du cerveau, bien sûr, la nourriture du cerveau. Eh ben, si c'est cette nourriture du cerveau, comment ça se fait que quand ils nous ont fermés, personne n'a réagi, sauf les gens qui font de la culture? Vous avez vu des gros défilés dans la rue de gens qui disaient, non, nous on veut les spectacles, nous on veut le théâtre, nous on veut le cinéma. Non. Non, pourquoi? Ben, évidemment, je fais un paradoxe, hein. Mais évidemment, pourquoi? Parce qu'ils ont peur, d'abord. Mais parce que ce n'est pas nécessaire. Il faut se rendre compte. Et il faut se mettre devant un miroir et se dire, là, on a eu une gifle monstrueuse. Et c'est notre faute si on a eu cette gifle.
Pourtant, les gens étaient, quand ils étaient confinés, ont beaucoup consommé sur le web, Netflix, Amazon Prime, les gens étaient en demande, ils ont regardé des séries. Alors c'est vrai que c'était pas tout à fait du théâtre, c'était pas tout à fait du. Mais des fois il y a des spectacles de stand-up, il y a des spectacles. Les gens étaient quand même en demande à la maison. Donc cette demande, elle s'est pas traduite dans la rue, en fait, finalement. C'est ça que tu nous dis.
Ce que tu viens de me dire, c'est la même chose que me disait le gamin. C'est pareil. C'est-à-dire, il y a aucune différence entre le live, le direct et l'enregistré. C'est cette mentalité-là qu'on a tellement absorbée que pour nous, on fait plus de la différence. On fait plus la différence d'être. Quand tu rentres dans une salle de concert, je parle pas de théâtre, c'est mon secteur, mais quand tu rentres dans une salle de théâtre, tu écoutes un concert, un opéra, et tout un orchestre de 70 éléments y joue. Mais où tu la trouves l'émotion? Où tu vas récupérer cette émotion-là? Le corps qui vibre, où tu le trouves où?
Le spectacle
devant une vidéo où tu passes directement dans un concert de n'importe qui, Tartampion qui se met avec sa guitare, avec plaisir, hein, Dieu sait si ça nous fait pas plaisir. Mais Tartampion avec sa guitare et la Philharmonic Orchestra, c'est pareil. C'est la même chose. Alors, c'est évident qu'on fait avec. Ça, c'est logique qu'on fait avec. Mais le problème, c'est ce fait avec. Il va nous faire perdre encore, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de voir en direct les choses, le plaisir d'être là.
Quand ça va reprendre, le jour où on aura la possibilité de reprendre, d'assister à des spectacles, tout ça, tu as peur que le lien cassé soit quasi définitif?
Non. Ça non, mais je veux pas faire le gna-gna et le populiste, hein. Attention. Mmh. Je pense pas que il faut faire la culture pour tous. Moi je pense que on doit tous aller vers la culture, mais je sais très bien qu'une partie des gens, ils seront jamais, ils se mettront jamais pieds dans un théâtre, et ça c'est mauvais, ils verront jamais dans un cinéma, ils penseront que c'est pas pour eux. Après, il faut pas oublier quand on sortira de cette pandémie, on sortira blessé, même dans les poches
oui.
des gens. Qui peut se permettre, il pourra se permettre de venir à tous les spectacles, à toutes les situations, tous les concerts, tous les cinémas? Qui pourra faire ça? Et, en plus, il y a une autre question, ça c'est une question sordide, c'est-à-dire, au final, disons la vérité, on était bien confinés, on était chez soi,
il y a un certain confort.
Voilà, il y a le confort, on sort pas de la maison, on dépense pas de l'argent, on est bien, on est coucoun, on est bien dans la famille, on est plus avec les enfants, on n'est plus avec la famille, au final sortir, pouf, pour aller faire quoi? C'est-à-dire que moi je pense, franchement, hein, et là je le dis clairement, moi je pense que il faut faire un nouveau pacte culturel avec les citoyens. Un nouveau pacte culturel. Il faut faire un pacte culturel différent. Il faut vraiment qu'on sache, nous, les gens qui font de la culture, qui la fabriquent, et les gens qui l'utilisent, le public, il faut qu'on se prenne par la main les deux.
Oui, parce qu'avec les problèmes de pandémie et les problèmes d'argent, ce que tu dis, plus ou moins, c'est que finalement, ça risque de devenir quelque chose pour les privilégiés, puisqu'il y aura peut-être que eux qui auront
évidemment.
Accès. C'est-à-dire quand on va voir un spectacle. Alors, c'est vrai que bon, ici, c'est un peu plus compliqué, mais sur le continent, les gens vont au théâtre, après ils vont manger, ou avant ils vont manger, après ils vont peut-être boire un coup, donc c'est quand même un budget.
Exactement.
Peut-être que la personne qui était amateur de spectacle, qui avait des revenus moyens, qui s'autorisait quelque chose, ne pourra plus l'autoriser. Donc, faire attention à ne pas basculer, que la culture ne devienne que l'apanage des gens qui ont une certaine situation.
Et je sais que quand je dis ça, mes collègues ou les directeurs de théâtre ou des administrateurs, ils prennent un frisson, mais elle était déjà comme ça. Elle était déjà comme ça, disons la vérité. Disons la vérité. Nous, à Calvi, ici, on n'a pas un espace théâtral. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire une salle vide. On ne sait pas, parce qu'on n'a pas la salle. Si tu n'as pas la salle, tu peux pas savoir la salle vide. Là, ils ont dit qu'ils ont fait un appel d'offres pour faire le centre culturel.
Ce serait en cours,
mais juste dans le moment qu'il y a le désastre. Donc, j'espère qu'ils ont réfléchi eux aussi, que peut-être avec ce désastre, une salle de théâtre, une salle de centre culturel, il a besoin d'une forme un peu différente. Il faut être plus souple, plus modulable, moins figé. Parce qu'il faut être moins figé dans le futur. La fameuse società mobile di Bauman, le philosophe qui j'ai rencontré, qui a Prato, qu'il était génie. C'est ça. C'est-à-dire, il faut être pas rigide dans tout. Il faut être souple. Il faut savoir qu'on glisse. On glisse en continuation. Nous sommes en train de glisser, notre vie est en train de glisser. Qui nous l'aurait dit qu'on aurait passé tout ce temps? Qui nous aurait dit qu'après toutes ces années de dire « Sortez, venez au spectacle, sortez de chez vous, venez au théâtre », là on dit « Non, 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 jamais de la vie, restez chez vous, restez !»
Oui, alors c'est un peu aussi l'imagerie populaire que les gens qui n'ont peut-être pas l'habitude de côtoyer les théâtres, le cinéma et tout ça, on a l'impression qu'il y a une certaine doxa, c'est-à-dire que c'est un monde assez figé, assez fermé, et donc du coup, là, il va falloir réapprendre à s'inventer et peut-être être beaucoup plus flexible et pour déjà trouver peut-être du monde, parce que il va falloir trouver du monde.
Je voudrais quand même placer un peu l'alphabet de cette chose, même avec notre personne qui sont en train d'écouter. Parce que quand on dit culture, après, ça semble, t'as raison, ça semble que c'est une question d'élite, culture. Mais qu'est-ce que c'est culturel? C'est quoi ce mot culturel? Qui des fois dit, ah, culturel, boum, je m'enfuis. Ah, culturel, ah, les livres, machin. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tout est culturel, d'une certaine façon. On discutait tout à l'heure, et je reprends cette idée, c'est-à-dire quand tu te trouves dans une situation comme celle de la pandémie, et tu as toutes ces informations qui t'arrivent de droite, de gauche, de toutes les télévisions, les journaux, et tu sais plus à qui croire, tu sais plus à qui penser. Là part le culturel, c'est-à-dire le décryptage de toutes ces infos, c'est une question culturelle. Choisir cette info-là ou l'autre, ou aller chercher encore des autres infos pour être solidifié, si on peut dire comme ça, dans sa propre opinion, ça c'est culturel. Quand tu envoies ton fils à l'école, et tu dis, ah, mon fils il va à l'école, c'est pas un babysitting l'école. Si tu penses ça, tu es non culturel. C'est clair. Si tu penses que ton fils, quand tu l'as vu devant un écran, faire ses devoirs avec la maîtresse, et toi non plus, tu savais qu'est-ce qu'il disait, la maîtresse, et tu savais non plus quoi répondre, eh ben, ça, c'est une question culturelle. L'éducation, c'est pas quelque chose pour être bien élevé. C'est pas une question de bien élevé. Ça veut dire avoir un cerveau, être, savoir décider dans la vie, savoir dire oui et savoir dire non. Surtout c'est ça culturel.
Surtout dire non.
Mais bien sûr. Et quand tu dis oui, il faut être culturellement préparé pour dire oui. Pas suivre comme les moutons. Alors, si tu as un mouton, après, tu peux pas venir à me casser les bonbons, à me dire, ah, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Et non. T'as pas de tête, normalement. Tu la sortes maintenant à me dire à moi qu'est-ce que je dois faire. Eh ben non. Donc, culturel, c'est savoir choisir les choses.
Alors, là, la date prévue, c'est fin février.
De quoi?
Alors, pour les bars, les restaurants, et peut-être les cinémas, les théâtres, tout ça.
Pendant les vacances de la neige.
Pour l'instant, c'est repoussé. Est-ce que immédiatement, que ce soit fin février, que ce soit mi-mars, tu seras en mesure de proposer des choses assez rapidement pour pouvoir relancer la machine, remotiver tout le monde, puisque peut-être que de ton côté, il y a peut-être des gens qui se sont démoralisés et qui ont dit bon ben écoute, moi là ça fait un an, j'ai perdu le fil, j'ai besoin de manger parce que j'ai des priorités et priorités. Et du coup, c'est plus celle-là. Est-ce que tu es prêt, toi, de suite, dès que tu vas avoir un feu vert, de repartir?
Alors, oui, la réponse est oui, et je t'articule la réponse. C'est-à-dire oui, mais sous plusieurs étapes ou plusieurs chemins. Comme je disais, la première chose, j'y crois à ce pacte culturel avec les citoyens. Moi, je pense qu'il faut qu'on discute avec les gens. Qu'on prend personne par personne. Donc, avec le sveglio, on fait ce travail à Calvi, ça fait une éternité. Et maintenant, encore plus, c'est important, une association comme le sveglio calvaise, qui a toujours eu ça dans la tête. C'est-à-dire cette idée de travailler pour les citoyens. Donc, le problème, c'est de faire comprendre tout le monde qu'on est là. Que si par hasard les enfants ils ont pas pu venir à les stages de Lauriane et de Vanina, ils peuvent retourner doucement, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire avec les trucs, que mes stagiaires d'Ia Truppa, on se rencontre sur la plage de façon clandestine, mais au moins c'est la plage, au moins c'est ouvert, on fait pas un cluster. Et je veux dire, ça on va le faire, mais surtout, on essaie de convaincre les personnes que on a besoin d'eux et eux, ils ont besoin de nous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'activité proprement dit, bien sûr, c'est l'année d'ante. Tu veux qu'un Italien en Corse, ils oublient que c'est l'année d'ante? Et bien sûr que non. Avec évidemment mon humour, mon vision du monde un peu déjantée, je ne ferai jamais une mise en scène de l'enfer de Dante, évidemment. Mais tu sais que Dante Alighieri, par exemple, l'histoire avec Béatrice, c'est une histoire vraiment de complètement dingue, hein. Lui amoureux d'une fille qu'il a vue 3 fois dans sa vie et qu'ils ont parlé une demi-fois. Donc c'est vraiment. Mais ce que c'est extraordinaire de cette histoire d'amour, c'est pas l'époque dans laquelle il est passé, c'est aujourd'hui. Je suis tombé il y a 2 ans dans une église à Florence, dans mes promenades florentines, qui se chiama Santa Margherita dei Cerchi, che c'est juste à côté de la maison de Dante, entre la maison de Dante et la maison de Beatrice Portinari. C'était l'amoureuse de Dante. Et là, dans cette petite chapelle, il y a une tombeau. On dit que c'est la tombe de Beatrice, c'est pas vrai, mais dans tous les cas. Et il y a una cesta, un corbeille. Et quand je suis rentré, je regardais bien, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et dans la corbeille, plein de petits billets. Je regarde un peu mieux, il n'y avait personne évidemment, hein, parce que c'est une petite chapelle, personne n'y fait attention. Je regarde mieux et je trouve quoi dans la corbeille? Je commence à tirer des papiers, je sais pas, des billets de train, des reçus de d'addition, des trucs. Et dessus, il y avait des mots écrits. Style, je sais pas, Beatrice, fais que Luca il me regarde. Un autre, I like John. Toutes des phrases comme si Beatrice. Ça devient une sorte de Juliette, comme Roméo et Juliette, une sainte à laquelle s'approcher pour avoir un retour, un aide dans les histoires d'amour. Et ça, je trouvais extraordinaire qu'encore aujourd'hui, il y a 700 ans, les gens, ils prennent un personnage comme Béatrice et une histoire d'amour qui n'a jamais été une histoire d'amour vraie, mais qui est seulement rêvée, et ils la prennent pour bon, et ils pensent qu'on peut s'adresser à ça pour dire quelque chose de très intime, de très personnel. Je trouve ça extraordinaire. Donc il faut raconter ça, par exemple.
D'accord. La passion?
La passion. Alors,
elle risque d'être mise à mal.
Oui, mais nous on a un peu blagué. On a dit on la fera le mois de juillet. On fera une passion estivale. Après, les gens ils ont pensé vraiment qu'on allait la faire au mois de juillet. Je ne sais pas, mais je pense que au moment, bah, la passion ça se passe dehors, hein.
Oui.
Le mois d'avril, c'est pas proche et c'est pas loin. Ouais, je pense que ça risque d'être. Tu sais, on avait envie de faire.
S'il y a un créneau
et s'il y a un truc, on essaiera parce qu'il y a une grosse motivation de tout le monde. Hein, il y a une grosse motivation de. Nous, on avait préparé une nativité. Donc, on s'était dit, l'année 2000, on n'a pas fait la passion. On essaie de faire une nativité. Donc, on avait préparé un spectacle, style une crèche vivante avec mes acteurs de la troupe, mais évidemment complètement délirant, dans lequel le bœuf et l'âne, une ils avaient un costume de vache et l'autre de gorille parce qu'on l'avait pas trouvé, donc il y avait pas d'âne mais il y avait un gorille dans le truc. C'est-à-dire on essayait de, vu qu'on n'avait pas fait la passion, de faire la nativité. On n'a pas pu faire non plus la nativité. C'est-à-dire que je dis que nous on doit avoir beaucoup de patience et faire comme les gamins. Ne pas pleurer, par contre, quand les châteaux de sable, ils vont être détruits par les vagues. Un peu de patience, on construit des châteaux, et on espère que les vagues n'arriveront pas.
Alors, on va en venir un peu à toi, puisque c'est quand même le sujet principal. Donc, je recadre, originaire du sud de l'Italie, plus précisément près de Naples.
Oui, t'aurais annonciata. Je suis né à 500 mètres de feu archéologique de Pompéi, donc je suis un résultat des feux archéologiques.
Donc quand même, deuxième cité méditerranéenne après Barcelone. Mm-hmm. Comment tu vis, parce que des fois nous en Corse, j'ai l'impression qu'on a un peu le même problème, je t'en ai un petit peu parlé, c'est-à-dire que quand on part sur le continent, les gens nous ramènent un petit peu à des choses qui sont pas nécessairement bonnes, et quand on parle de Naples, c'est souvent Maradona, le calcio et la Camorra, tandis qu'en fait Naples c'est pas que ça. Naples c'est 26 siècles d'histoire, c'est des inspirations grecques, romaines, byzantines, c'est la première université laïque du monde, l'université Frédéric II il me semble. Mm-hmm. C'est l'opéra bouffe, c'est les chansons napolitaines, c'est le baroque, le théâtre, la cuisine, la pizza aussi. Quand on vient de Naples, qu'est-ce que ça représente?
La Corse. Oh, qu'est-ce que ça représente Naples?
Qu'est-ce que ça représente Naples?
Ah ben alors là, là, t'as bien cadré le tout, hein. C'est-à-dire, tu as parlé d'une ville qui a mémoire et qui, ce n'est pas une ville, mais c'est plusieurs villes.
Avec une très forte identité culturelle.
Avec une énorme identité culturelle. Moi, des fois, ça me prend le sourire quand on parle de langue. Parce que ici, on fait et on met le paquet pour la langue corse, pour que les gens ils parlent le corse, pour qu'on le fait à l'école, et ça c'est bien, et on y va pour l'identité, tout là. Si tu vas à Naples, à partir du type qui te fait le parking, dotto, venite, dotto, qui prend les sous pour te mettre en place la voiture, jusqu'à le juge de la cour d'appel, tout le monde parle napolitain normalement. À Naples, il n'y a pas le napolitain dans les classes, dans les écoles, il n'y a pas de bilinguisme, et surtout pas. Moi, je n'ai fait que prendre des gifles quand je parlais napolitain à l'école. Tais-toi, parle italien, tais-toi, parle italien, tais-toi, parle italien. Et ça, ça m'a fait perdre avec le temps, parce que moi, je suis un immigré. Mais en restant sur Naples, et le problème, ça vient d'où? Le problème, ça vient que nous, on a une bizarre idée de l'Italie. C'est-à-dire, pour nous, l'Italie, c'est une unité. Ouf. Pour arriver à cette unité, on y a mis 2000 ans, hein, presque, 1500 ans. Donc, l'Italie, ça n'a jamais existé, en réalité. Ça n'a jamais existé. C'est une nation très, très, très nouvelle. Qu'est-ce qu'elle a? 150 ans. Qu'est-ce que tu veux que ce soit par rapport à la France, qui vient de l'époque du Moyen-Âge? Rien. Et donc, c'est exactement ça la grande richesse de mon pays. C'est-à-dire le fait que pour des siècles et des siècles, chaque ville, elle a été indépendante. Venise n'a rien à voir avec Naples, elle n'a rien à voir avec Florence. La culture napolitaine, elle a, justement tu as dit, elle a 2000 ans, elle a 3000 ans. Si tu penses que les empereurs romains, ils venaient à Naples parce qu'ils pensaient que c'était une sorte de spa, Naples. Et quand ils venaient à Naples, ils avaient le droit de parler grec. À Naples, on a parlé grec jusqu'à l'année 1000, et pas latin. C'était un peu ce lieu de grandes snobs, de grandes richesses, de grands trucs. Une fois qu'on arrive à l'année 1000, on découvre que le vulgaire, ce qu'on appelle le vulgaire, c'est-à-dire la sortie du latin et du grec vers une langue, il a transformé la langue napolitaine, il naît la langue napolitaine, que c'est une langue que tu peux trouver des textes à partir du 1000-1100. Donc tu as une littérature napolitaine qui a plus de 1000 ans. Donc tu as un parler qui va, une littérature, une identité très forte. Maintenant, Orlando, il avait perdu tout ça, parce que je suis un émigré. Moi je suis parti de là avec ma famille, je suis allé à Turin, donc enraciné complètement. Je suis allé à Turin, donc Turin, tu peux imaginer, un autre monde, une autre ville, une autre situation, les gifles, parle italiano. Donc j'avais perdu complètement le napolitain. Quand dans les années 80 je débarque en Corse, et à Pigna d'abord, et pourquoi j'y suis resté? Parce que j'ai découvert une chose qui me manquait à moi, c'est-à-dire cette reconquête de mon identité de napolitain. Donc mon identité de napolitain, je l'ai récupérée à travers le riacquisto. Si le riacquisto, il est servi à quelqu'un, il est servi à moi, mais pas pour le Corse, mais pour me reprendre mon identité de napolitain. C'est-à-dire que ce moment extraordinaire que vous avez vécu, qu'on a vécu ici dans les années 70 et 80, ça a été formidable. Ça a été vraiment je sais pas comment dire, c'était les feux d'artifice, c'était même avec toute la problématique, il faut pas faire du romantisme.
Hein. Et personnellement, ça t'a permis de reconstituer un petit peu les pièces du puzzle que tu avais.
Exactement. Tu dis bien le puzzle Orlando.
l'élève Orlando, comment il était?
Élève d'école?
Oui.
Nul. Ah. Non, attends, allons par étapes. Vu que je venais du napolitain, pour nous, l'italien, c'était langue étrangère. Donc, quand je faisais italien, c'était nul. Maintenant, j'écris, je fais des trucs en italien. Des fois, je me surprends de dire comment j'ai pu être si con à ne pas comprendre l'importance de la langue. Mais ça arrive comme ça. Tu sais mieux que moi, parce que tu étais en France, peut-être, et les gens qui sont été un peu déracinés, ils me comprennent. C'est de la fatigue. Il faut se mettre sur les rails, il faut être mieux que les autres quand tu es dans une ville que c'est pas la tienne. Et nous, à Turin, j'ai dû me faire l'éducation sabaude, j'ai dû être plus italien que les Italiens, plus fort à l'école que le reste, mais pour arriver à ça, j'ai mis un peu de temps. Donc la première partie de mon période scolaire, elle était sempre passato, ogni anno, ma pas énorme. Après, j'ai choisi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, de faire le chimiste. Qu'est-ce qu'il a à voir? J'ai aucune idée. Mais j'ai décidé de faire le chimiste. Et ça fait que quand j'étais à l'école, au lycée de chimique, les premières interrogations, j'avais étudié. Mais comme ça, j'étais jamais un élève. Eh ben, j'ai eu la possibilité que je me suis porté cette image d'Orlando très studieux pour toute ma carrière d'école. Donc, quand ils disaient, allora, adesso interroghiamo, et moi je disais, moi, et ils disaient, non, Orlando, tu connais le truc. Donc je trichais, je connaissais pas. Mais ils me donnaient bien des notes très hautes, mais c'est pas vrai. Après, j'ai une tête un peu mathématicienne, donc pour ça, j'étais très fort.
Et qu'est-ce qui fait la bascule, puisqu'on est sur un monde plus ou moins scientifique, du coup, qu'est-ce qui fait la bascule dans ce côté un petit peu du monde du théâtre, qui pour les gens peut paraître un peu plus léger,
oui.
Moins pragmatique finalement que les sciences.
Ouais. Je me suis posé la question. Je veux dire, là j'arrive après 40 ans. Cette année j'ai fait 40 ans de professionnel de théâtre. Et je me suis posé la question et je pense que mais peut-être que les gens comprendront que faire l'artiste, ce n'est pas, tu peux pas penser que tu passes ta vie à faire le clown. C'est pas ça la question. Faire le clown, ça veut rien dire. Je veux dire, faire le clown dispréciativement, ça veut rien dire. Nous, on a deux visions de vivre ce métier. Une, c'est personnelle et individuelle, et l'autre, c'est avec les autres. Donc, avec les autres, on a encore deux visions. Il y a qui aime le public et qui déteste le public. Alors, moi, j'aime le public. Et donc, je fais les spectacles en pensant au public. Moi, si quelqu'un rigole à mes spectacles, moi, j'ai le plaisir. Je connais des collègues que quand les gens ils rigolent, ils disent, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ils rigolent? Eh ben oui, c'est bien, non? C'est une émotion. Moi, je crois beaucoup à l'émotion au théâtre, qu'il soit positive, qu'il soit larme, qu'il soit... Je pense que dans le théâtre, on va chercher... Et l'autre, c'est personnel. C'est-à-dire que faire une activité culturelle, comme je disais avant, ça décrypte, ça te donne les possibilités de décrypter, mais au même moment, ça va remplir des vides. Tout le monde, il a des vides, des trous dans notre existence. Et avec ces vides, il faut vivre. Et des fois, tu essaies de les remplir avec l'art, la culture, avec le spectacle, avec les personnages que tu interprètes, avec la vision de la beauté, la vision du monde, d'un monde que peut-être ça n'existe pas, mais ça existe. Un monde complètement différent du monde banalement économique et consensuel dans lequel on vit. Oui, d'accord, que tu me dis des choses, je fais oui avec la tête après toute ma vie des situations, mais je n'ai aucun. Aujourd'hui, j'ai regardé un documentaire sur une dame qui disait « je veux me perdre ». À la fin de ma vie, je veux me perdre. Je veux pas mourir, je vais mourir, mais je veux me perdre et surtout je perds mes enfants. Je veux les quitter, mais pas pour me suicider, mais pour partir. Pour où, je ne sais pas. Alors, une femme qui te dit ça, elle te fait réfléchir. Voilà qu'est-ce que c'est l'art, voilà qu'est-ce que c'est la culture. C'est la possibilité de te parler de toi-même. Et nous, on dit des choses et des fois, on espère que les gens ils les prennent pour eux-mêmes.
Premier souvenir Calvé.
Città dell'Infesta, le Sveglio, j'étais là sur la place, pour Città dell'Infesta première édition, j'étais avec Jérôme Casalong, je me souviens que le plateau il était mis avec, vers la caserne, il y avait Kanta, j'ai ce souvenir, il y avait tous les gens, nous on était à côté, debout, à côté de l'hangar qui est là, qui a la box de voitures, qui est sur la place d'armes, beaucoup de monde, beaucoup de plaisir,
C'est un coup de foudre ou ça a mis du temps?
Non, ça a été un coup de foudre, mais je te répète, c'est pas le coup de foudre du type qui dit « Ah, c'est beau la Corse, ah, je vais vivre, je vais me faire une maison ». J'ai pas une maison dans toutes ces années, j'ai pas pensé d'acheter un truc, parce que je pense pas que c'est mon devoir. Et quand il y a quelques Corses qui peut faire quelque chose, moi je me retire, je le laisse faire, moi j'interviens là où les gens ils ne font pas. Mon travail, c'est d'être un Napolitain prêté à la Corse. C'est-à-dire, si moi je regarde, j'ai la chance de regarder avec la double casquette et de voir un peu comment on peut avancer au fur et à mesure, comment je peux aider les autres ici. Donc, ce n'est pas le coup de foudre de dire ah, la Corse, c'est belle, la mer, la plage. Je m'en fous de la mer et la plage, moi. C'est pas ça qui m'intéressait. C'est les gens, c'est tout ce mouvement qui est en train de se perdre, et ça c'est dommage, pour se banaliser un peu, pour se homologuer. Ça c'est dommage. Moi je suis sûr qu'un jour ou l'autre, ça va ressortir la phrase de Rousseau, un jour la Corse étonnera le monde. Moi je pense encore aujourd'hui qu'à travers la culture, on peut étonner le monde. On peut faire des choses extraordinaires. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Qui a altro che speranza. Il y a du boulot, il y a des autoroutes de travail à faire ici. Il faut seulement le faire.
On va aborder une partie de l'émission, c'est les questions qui fâchent.
Ouh.
Toujours, voilà. Une petite musique d'ambiance.
Oula, Ennio Morricone.
Alors, on le sait, on en a parlé. Tu es venu du sud de l'Italie nous voir. Est-ce que tu as eu affaire un petit peu à un racisme dans ton histoire corse vis-à-vis du fait que tu t'occupais de choses qui auraient dû revenir à des Corses ou à des Calvets quelque part? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à ce genre de comportement?
Alors, justement pour ça, j'ai essayé d'être très vigilant. Donc, pas parce que, non, donc racisme, pas de tout.
C'est animosité.
Non, au début, je suis italien, hein. Quand je suis débarqué là, la Corse, elle était pleine d'Allemands. Donc, il n'y avait pas un Italien. Donc, le type italien, ça faisait respirer un peu les Corses. Déjà, l'impact, elle était positive. Elle n'était pas grave. Après, oui, il y a eu, de temps en temps, hein, mais, j'ai un souvenir accourté une fois de m'être pas compris avec un type, c'est mal passé. Il y avait un peu d'animosité, mais c'est pas animosité. Je pense que, c'était un peu comme pour dire pourquoi tu restes pas chez toi. Les gens ils comprenaient pas pourquoi j'étais là au début, et des fois moi aussi je comprenais pas. J'ai travaillé en Italie, je venais ici de temps en temps. Après, quand j'ai accepté la proposition de Sveglio de faire un travail à l'année, ça c'était révolutionnaire, si tu veux. Mais au début non, au début les gens ils me voyaient, mais ils me voyaient pas, tu vois, j'étais pas si présent sur le territoire. Mais c'est vrai que j'essayais de faire attention tout le temps à laisser l'espace aux Corses. Et des fois, je t'avoue qu'ils m'ont demandé plusieurs fois de faire de la politique. Et moi, j'ai dit, c'est pas mon boulot. C'est-à-dire laisser aux Corses la gérance de la Corse. Moi, si vous voulez des conseils, je vous les donne. Je peux dire tout ce que je pense. Je peux vous filer un coup de main. Mais je pense que c'est aux Corses de s'occuper de la Corse. Je suis pas Théodore de Neuilleuf, et il a mal terminé, donc j'ai bien l'exemple.
Deuxième question qui fâche, on va s'arrêter sur la question qui fâche là-dessus. Est-ce que tu as une peur, on en a un petit peu parlé, une réelle peur de pas pouvoir continuer, c'est-à-dire que cette pandémie aura mis à l'arrêt définitivement. Est-ce que ça traverse l'esprit? Est-ce que ça t'a traversé l'esprit pendant cette pandémie de se dire, une fois terminé, il n'y aura plus rien?
Alors, moi je dois dire merci à ma chance. C'est-à-dire, moi j'ai commencé ce métier, je te dis, il y a 40 ans, je l'ai commencé au top niveau. Dans le sens que je suis tombé par hasard dans une troupe de théâtre avec le directeur de la Biennale de Venise. Quand la Biennale de Venise, elle faisait le premier carnaval avec millions de personnes qui envoyaient Venise. On était le centre du monde, on était devenu, et donc on avait contact avec tout le monde. J'ai passé mes premières 15 ans à tourner le monde, de l'Australie aux États-Unis, de l'Allemagne. J'ai géré pour 6 mois l'Expo de Séville, avec les spectacles de théâtre, j'ai un curriculum qui fait j'ai paura de page et page. Donc j'ai eu beaucoup d'expérience de ce point de vue. J'ai vu un peu le monde qui changeait. J'ai eu beaucoup de changements dans la vie. Et comme il dit Andrea Camilleri, grand écrivain sicilien, disparu, il disait, déjà à l'époque d'Euripide, on disait que le théâtre, il était mort. Voilà, moi je pense que le théâtre, il meurt pas, que le direct, le live, il va pas mourir. C'est plus facile qu'il meure l'enregistrer. Que un jour il y a une panne de courant, on peut pas faire la radio, on peut pas regarder la vidéo, on peut pas regarder, ça c'est plus sûr. Ça c'est plus sûr. Moins sûr, c'est que le théâtre, ça n'existe plus. Le théâtre, il va exister tout le temps. Il a passé des périodes négatives, des périodes de grandes combats pendant le Moyen-Âge. Il nous envoyait dans les pires situations, les comédiens. Si tu veux, en Italie, le violet, c'est en couleur qui porte malheur, parce que pendant le carême, les acteurs, ils pouvaient pas jouer. Si tu jouais pas, tu mangeais pas. Donc, on a passé notre existence à combattre. Donc, un combat plus, un combat moins. Ce que c'est important, c'est de pas se tromper dans le combat. Donc, moi j'aimerais qu'on dise, encore une fois, la Corse est là un exemple de relation entre public et acteurs culturels. Ça, je pense qu'on peut continuer. Peut-être, même avec la radio, on peut faire des discussions avec les auditeurs pour discuter de ce pacte culturel, peut-être, si vous avez bien l'envie. Parce que je pense qu'il faut parler avec les gens, il faut savoir quelle est leur idée, et parler vraiment, hein. Moi, je pense que je suis étonné de savoir que les gens, ils peuvent sortir de cet enfermement sans se rendre compte de comme c'était beau de sortir de chez soi pour aller voir un film, pour aller voir une pièce de théâtre, pour se faire une rigolade, pour rester à côté des autres.
Et il y aura un besoin, sûrement.
Et il y aura un besoin, mais il faut faire attention. C'est pas dit que ce besoin soit exactement ce qui s'attend de les gens. Et c'est pas dit que les gens, ils ne se prendront pas en compte leur responsabilité. Quand on dit les gens, je dis le public, il a des responsabilités. Il doit le savoir. Et nous sommes là pour eux, mais eux aussi, ils sont là pour nous.
On va faire les questions flash. Je finis toujours sur les questions flash. Si tu étais un trait de caractère.
Ok. Vas-y.
Si tu étais un trait de caractère, quel serait-il?
Un trait de caractère?
Oui.
C'est quoi?
Une qualité. Quelque chose qui te détermine.
Moi? Que me détermine la patience.
Donc, un défaut.
Je pense trop.
Si tu étais un animal.
Oula, je voudrais être un jaguar, mais en réalité, je suis une sorte d'hérisson, des fois.
Si tu étais un héros de fiction.
Un héros de fiction? Mon Dieu, Superman, c'est la première chose qui me vient à la tête, parce que je suis vieux, je devrais dire l'homme araignée ou les Marvel, les personnages. En réalité, être un prince, un principe azzurro mi piacerebbe essere.
Un personnage de la vie réelle.
Un personnage de la vie réelle?
Eh ben, historique, hein,
historique, pas... historique. Eh ben, je suis en train de travailler sur ça, mais je pense qu'il y a une dame, Wangari Maathai, une professeure kenyote, qui a planté au Kenya 5 millions d'arbres. Voilà. Moi, chapeau, je veux être cette femme-là.
Ce que tu détestes le plus chez l'homme?
La banalité, le passer sur les choses d'une façon pas originale, pas personnelle, mais banale.
La chose dont tu es le plus fier?
De ma résistance à tous les coups.
Est-ce que tu as une devise?
Speranza è mia patria.
Un livre de chevet?
Ouh, alors là, un livre,
un seul.
Non, c'est impossible. Ça, je te promets, c'est impossible. C'est l'encyclopédie, je ne sais pas. Je veux dire, je peux pas te dire un livre, parce que moi, si je dis un livre, tout de suite, elle me sort un autre. Peut-être, oui, le livre des livres, c'est-à-dire la de Calvino, Italo Calvino, Lezioni Americane.
Un film.
Là aussi, tu vois, y a. Je pense à un film, après ça me vient sur la tête un autre. Peut-être le film que je ne regarderai plus parce que ça m'a angoissé trop. Freaks.
Ah, je ne sais même pas ce que c'est.
C'est l'histoire d'une bande de nains dans un sorte de cirque qui vivent. Il y a seulement une fille qui a de la taille normale. Ils sont tous amoureux d'elle. Il y a des homicides, des assassins. C'est une histoire glauque. C'est terrible, mais c'est fascinant.
Si tu étais, tu es plutôt SMS ou coup de téléphone?
Je serais coup de téléphone, mais je suis bien même dans les SMS. Je parle très bien au répondeur téléphonique.
Plutôt lundi ou vendredi?
Ah, ça n'existe pas la semaine pour moi. Dimanche, je travaille.
Plutôt passé ou futur?
Ah non, futur, mais avec la mémoire du futur.
Chien ou chat?
Ni l'un ni l'autre, je les adore les deux, mais je ne suis pas à la hauteur de pouvoir garder ni un chien ni un chat, parce que je suis moi-même un chat ou un chien.
Agir ou penser?
Agir et penser en même temps, autrement ça sert à rien.
Orlando, je te remercie. Merci d'avoir passé ce, nous avoir éclairé de
Mais merci à vous, hein. J'ai vu que tu étais très préparé, hein.
Ouais, j'essaie.
Moi, hein, baba.
J'essaie. On essaie de travailler un petit peu l'arrivée des invités. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine,
je peux faire seulement un salut à toutes les personnes qui sont. On a parlé de nous, mais il y a beaucoup de gens qui sont en souffrance, qui sont... Et je veux pas être rhétorique en ça. Ça me désole.
Ça me fait
du mal savoir que des personnes, ils ont pas le courage de sortir et de dire, j'ai pas d'argent. Je suis dans la merde. Moi, je dis, sortez. Allez, il y a des associations, il y a des personnes qui peuvent vous accueillir. Il y a aucun mépris, il y a aucune considération. Moi, je dis surtout, même dans la détresse psychologique, ne restez pas tout seul. C'est un désastre, ça.
Si cette pandémie doit servir, c'est surtout être bienveillant, je pense, d'arrêter de se regarder peut-être le nombril et d'essayer aussi d'aller vers l'autre, puisqu'il y a des gens qui doivent peut-être verbaliser leurs problèmes et puis peut-être d'autres de s'apercevoir qu'à côté... ça peut être pire et de tendre la main, je pense que ça c'est assez important.
Ne jugez pas.
Voilà. Donc sur ces belles paroles, nous allons nous quitter et nous disons à la semaine prochaine, lundi 10h30.